Bonjour à toutes et à tous. Les échos du Grand Saint-Barthélemy, réalisés et produits par le comité Mamiga et Radio Galère. Je vous invite aussi à aller sur le site du vivensemble.org. L'émission se déroule de 13h30 à 15h. Là, je vais passer la parole à Jean-Marc qui prend le relais.
Merci Farid. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Galère. Donc, comme vous le disiez, Farid, les échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère 88.4, sur la bande FM et sur le canal 8C, sur un RNT, un DAB+, et sur le site de la radio que vous pouvez écouter, www.radiogalère.org. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez en composant le 07 49 53 26 38. Donc, les émissions des échos se déroulent tous les derniers jeudis du mois, de 13h30 à 15h, comme vous le rappelez, Farid. Et aujourd'hui, avec Leïla Ega, plus connue dans les grands Saint-Barthélemy sous le diminutif de Lily. Donc, elle est là, elle va participer avec l'émission avec nous, dans la mesure où Karima Berich, qui est notre passeuse de mémoire, qui n'est pas présente, mais néanmoins, elle est là pour nous parler de la politique de la ville. Il y a l'animateur Saïd Bouknouch ici présentement aussi, les membres du comité, et Farid Adrar qui est à la réalisation. Donc il y a notre ami fidèle qui est toujours notre technicien préféré, Sidi de Radio Galère. Je le remercie d'être toujours fidèle à son poste. Et concernant l'émission de ce jour, avec nos invités, nous allons aborder la problématique de l'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville. Et nous leur remercions de leur disponibilité. Je vous propose une première pause musicale. Francis Cabrel, Saïd et Mohamed.
Elle changeait les draps de l'hôtel, les traces de doigts sur les poubelles. Petite hirondelle, au milieu des corbeaux, elle chantait Desperado. Moi j'avais du retard sur le sommeil, je m'étais fait doubler par le soleil. Elle, de l'autre côté du couloir, elle faisait chanter les miroirs. J'ai passé une heure de sa vie, une heure sous le soleil d'Algérie. Sous la course des planètes, il y a des moments qu'on regrette. Derrière ses paupières mi-closes, je voyais plus de gris que de rose. Quand je suis parti, j'ai bien compris que je perdais quelque chose. Ces enfants qui font rien à l'école et qui ont les poches pleines de tubes de colle. De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. C'est le ciel en tôle ondulé pour toujours, c'est la fenêtre sur la troisième cour, c'est le cri des voisines, plein les oreilles et les heures de mauvais sommeil. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend le mauvais français, le musulman, sous la course des planètes, ça serait bien qu'il s'inquiète avant que ses paupières n'explosent et qu'elles prennent ce gris en overdose. Quand je suis parti, j'ai bien compris qu'on y pouvait quelque chose. T'envoies 10 francs pour les enfants du Gange parce que t'as vu des photos qui dérangent. T'envoies 10 francs pour les enfants d'ailleurs parce que t'as vu des photos qui font peur et elles que tu croises en bas de chez toi. Elles que tu croises en bas de chez toi. Depuis, je suis retourné à Marseille. Ses amis n'ont pas de nouvelles. Y a trop d'hirondelles ou trop de corbeaux. Elle a dû changer de ghetto. Moi je crois plutôt qu'elle change les draps de notre hôtel. D'autres traces de doigts sur d'autres poubelles. De l'autre côté de notre couloir. part, elle doit faire chanter les miroirs, chanter les miroirs, chanter les miroirs, chanter les miroirs.
Les Échos en direct du comité Maïga. Avec nos invités, Madame Marielle Castel, directrice de Pôle emploi Carré Gabriel, Virginie Armelin du MOV Agora, et de Monsieur Abdel Belmoukadem du cabinet spécialisé dans médiation emploi nécessité. Avec nos invités, nous allons ouvrir une fenêtre sur l'emploi concernant les quartiers prioritaires de la ville, afin de vous et de nous présenter une initiative digne d'intérêt. Donc, restez à l'écoute de l'émission. Alors, Nos invités, pouvez-vous vous présenter ainsi que le pourquoi de votre participation à l'émission Les Échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère. Nous démarrons par Madame Castel, directrice du Pôle emploi Carré Gabriel.
Oui, bonjour à tous. Donc Marielle Castel, directrice d'agence au Pôle emploi Marseille Carré Gabriel, et ce depuis 2017. Dans cette agence, donc aujourd'hui, je suis ici pour présenter avec l'organisme de médiation sociale nécessité, l'événement Première Loge, voilà, qui aura lieu ce 9 juin, et Pôle emploi finance avec l'État ce projet Première Loge. Voilà.
D'accord. Alors, juste une autre question peut-être, c'est à savoir, le Pôle emploi recouvre quel territoire, quelle zone? Cela ne concerne que les QPV, vous intervenez, ou cela va bien au-delà?
Alors, le Pôle emploi de l'agence Carré Gabriel recouvre tout le 14e arrondissement, donc tous les demandeurs d'emploi qui résident dans le 14e.
Et est-ce que le fonctionnement reprit normalement, ou bien privilégier le télétravail?
Alors, on a toujours été ouvert,
oui,
contrairement à ce qu'on a pu
entendre. Bien sûr.
Mais effectivement, beaucoup d'entretiens étaient quand même, bien sûr, dématérialisés, et on a suivi, bien entendu, le télétravail. Donc, cependant, nos demandeurs d'emploi peuvent venir, bien sûr, le matin, et ce, pendant toute la période de crise. On accueille sur le flux et l'après-midi sur rendez-vous. Voilà. Et là, le contexte, effectivement, on va renforcer les entretiens, bien sûr, physiques dès le 9 juin. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup. Oui.
Bonjour.
Bonjour, Abdel. Alors,
donc, Abdel Belmoukadem, je suis le fondateur du cabinet Nécessité. Le cabinet Nécessité est spécialisé sur les questions de médiation emploi. Je l'ai fondé en 2001 suite à une expérience. J'étais le premier médiateur en France suite aux émeutes à Vaux-en-Velin, dans mon quartier. Donc, je viens des quartiers. Pareil, quartier prioritaire. À la base, je ne sais ni lire ni écrire. Et j'ai été aussi confronté directement aux problématiques d'égalité des chances.
C'est une bonne chose. Alors, depuis quand existe ce cabinet spécialisé?
Donc, on vient de fêter les 20 ans au mois de janvier. Et puis, dès qu'on pourra se rassembler, on fera une méga fête avec tous nos partenaires, tous les candidats qu'on a accompagnés depuis 20 ans, au mois de juin prochain.
Et sur quelle observation vous avez créé votre structure? Et quelle est la nature juridique? Dites-nous tout. C'est une association de loi 1901?
Non. Non. Non, je ne veux pas. Pour une seule raison, c'est que je veux démontrer qu'on peut, en France, entreprendre utile et entreprendre pour les autres. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et puis, je voulais créer un modèle qui soit pérenne, pas un modèle où, à un moment donné, si la gouvernance politique change, on peut avoir un risque de ne plus être financé. Voilà. Donc, du coup, c'est plutôt une structure privée. Et le conseil est relativement simple. C'est que quand j'ai développé la médiation au départ sur la ville de Vaux-en-Velin, j'ai utilisé l'outil emploi. C'est pour ça qu'on a réussi à reconquérir les quartiers. C'est comme ça qu'on a réussi à diminuer le chômage et à régler la délinquance et régler un certain nombre de problèmes. C'est en remettant l'emploi au cœur des quartiers et en facilitant l'accès aux entreprises, aux jeunes et aux moins jeunes de ces quartiers-là.
Dernière question pour le moment. Alors, quelle est votre implantation d'une part? Et votre zone d'intervention, est-ce qu'elle est très large? Cela va sur tout le territoire français, dans l'Hexagone, ou vous vous êtes aussi implanté outre-mer?
Alors, aujourd'hui, notre territoire de jeu depuis 20 ans, c'est la France. Donc, on est sur l'axe Paris, Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA. Voilà. On est installé en PACA depuis un peu plus d'un an. Voilà, sur un autre projet, un autre dispositif, on développe nos activités. Voilà, et puis on a renforcé notre positionnement avec le projet Première Loge qu'on coproduit avec Pôle emploi.
Merci. Nous allons poursuivre avec notre invitée, Virginie, aussi du MOV Agora. C'est ainsi que je peux faire la présentation.
Tout à fait, bonjour. Donc, je suis Madame Armelin Virginie. Effectivement, je suis animatrice MOV. Alors MOV, ça veut dire Mobilisation Orientation vers l'Emploi. C'est un dispositif qui existe depuis 7 ans maintenant. Il a suivi en fait avant un ancien dispositif qui s'appelait le PAPEJ, qui était en direction des 16-25 ans. Maintenant, c'est pour tout le monde, c'est les 16-65 ans. Je travaille pour le centre social Agora, donc j'interviens sur la même zone géographique que le centre social, c'est-à-dire les Flamands Iris, Picon Fond Vert, le Mail, la Butrine et Picon. Et oui, c'est ça.
Et donc voilà. La Benosse aussi.
J'ai pas entendu ce que.
La Benosse.
Oui, la Benosse, bien sûr. Ah, oui, qui est aussi collée à Fond Vert et à la Butrine.
Même si depuis peu, la Benosse a été sortie du DQPV.
Oui, tout à fait.
Alors, vous tenez des permanences aussi en dehors du centre social ?
Oui, tout
Comment
à fait.
Comment les choses se passent ?
Alors, en fait, j'ai une permanence en collaboration avec Nécessité et aussi avec donc le pôle insertion. Donc, voilà, là, pour les personnes bénéficiaires du RSA. Et on est le lundi après-midi à la Maison des Familles à Fond Vert. Et au préalable aussi, je devais faire des permanences aux Flamands, mais avec le Covid et tout ça, ça a été reporté. Mais pour la rentrée, voilà, ça sera les Flamands, la Maison des Familles et aussi l'Agora. Et aussi, j'interviens auprès des jeunes au B7, en cœur de quartier à la Busserine, avec mon collègue Kader, qui est l'APJ, qui est l'animateur prévention jeunesse.
Merci pour ces présentations. Nous allons poursuivre avec notamment Lily, dans la mesure où, lorsque j'ai entendu Vaux-en-Velin, cela me renvoie au démarrage de la politique de la ville. Donc cela réinscrit dans l'historicité de la politique de la ville. Donc avec Lily, nous allons découvrir un peu qu'est-ce que c'est la politique de la ville. Apparemment, ça a démarré au moment où il y a eu surtout les émeutes des banlieues. Y compris Saïd pour en dire deux mots aussi, n'est-ce pas ?
Donc bonjour à tous, je vais essayer de vous faire une description, une présentation plutôt brève de la politique de la ville, même si on sait très bien qu'elle ne sera pas brève, mais bon, c'est pas grave, n'est-ce pas ? Donc l'histoire de la politique de la ville n'est pas linéaire et elle s'est structurée autour de points de tension. On peut en faire remonter les prémices dans les années 70, avec la circulaire Guichard qui met fin à la construction des grands ensembles. La démarche Habitat et Vie sociale, HVS, apparue en 1977, a symbolisé les premières actions phares dans les quartiers d'habitat social, mettant ainsi l'accent sur la réhabilitation du bâti ainsi que sur la participation des habitants. Au début des années 80, faisant suite au défi des premières émeutes urbaines dans les quartiers d'habitat social, les pouvoirs publics ont initié différents rapports qui ont structuré ce qui sera ensuite nommé politique de la ville. Donc en 1981, avec le rapport Schwartz, dont l'intitulé était « Insertion sociale et professionnelle de jeunes ». En 1982, avec le rapport Dudebout, « Ensemble, refaire la ville ». En 1983, avec le rapport Bonne Maison, « Face à la délinquance, prévention, répression et solidarité ». Ces rapports visaient alors à trouver des réponses nouvelles et innovantes. Différents dispositifs ont vu le jour suite à ces rapports, notamment les démarches de développement social des quartiers et des SQ. Elle visait une amélioration de l'ensemble des aspects de la vie quotidienne des quartiers. Les contrats DSQ seront inscrits dans les contrats de plan État-Région CPER du 9e plan signé en 1984. Toujours dans la perspective de ces rapports, les années 80 sont celles qui donnent jour aux missions locales pour l'emploi des jeunes, aux zones d'éducation prioritaire ZEP et aux conseils communaux et départementaux de prévention de la délinquance. Un fonds social urbain FSU est également créé et réserve une partie des crédits de l'État pour les projets de développement social urbain. Ainsi, la politique de la ville s'est peu à peu structurée en réponse à des phénomènes de violence urbaine de plus en plus médiatisés, avec notamment en 1981 les violences urbaines dans les quartiers des Minguettes à Vénissieux. Oui. Donc, ces violences sont à l'origine de la Commission nationale pour le développement social des quartiers, dite la Commission du Debout. En réponse à celle du quartier du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin en 1990, le premier poste de ministre de la ville est créé pour donner plus de poids à celle-ci. Enfin, les événements de Clichy-sous-Bois en octobre 2005 ont précipité la promulgation de la loi sur l'égalité des chances et la création de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui est devenue aujourd'hui ANCT, Agence nationale cohésion de territoire. Voilà. Donc la politique de la ville s'est structurée par à-coups. Toutefois, quatre logiques demeurent permanentes. La première, c'est que c'est une politique globale, où sont appliquées la transversalité et le partenariat. On souhaite traiter tous les les aspects de la vie quotidienne. Personne ne peut faire seul. La seconde, c'est une politique initiée par l'État, interministérialisée, contractualisée avec les communes, suivie des élargissements progressifs des signataires des contrats, avec les établissements publics de coopération intercommunaux, la CAF, les conseils généraux, etc. La troisième, c'est une politique d'innovation, ingénierie sociale, ingénierie de projets territoriaux, recherche de nouvelles dynamiques locales, mais avec une contradiction, peu de moyens financiers en propre, d'où une logique de compensation avec le droit commun. Et enfin, le quatrième axe, c'est une politique locale et territoriale, une adaptation au territoire inévitable, logique de zonage, avec la création des zones urbaines sensibles, zones franches urbaines, zones de rénovation urbaine, contrat urbain de cohésion sociale, agence nationale de rénovation urbaine, et la superposition des logiques d'intervention. En 2015, les zones urbaines sensibles, donc ZUS, et les zones de redynamisation urbaine ont été supprimées et remplacées par les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors, en France, il y a 1300 quartiers prioritaires. Ils bénéficient d'avantages fiscaux. Initialement, ces avantages étaient prévus pour les entreprises créées dans les QPV jusqu'au 31 décembre 2020. Et en 2019, suite à la loi des finances, il y a une prorogation et les exonérations ont été attendues jusqu'au 31 décembre 2022.
Donc, pour essayer d'illustrer, parce que c'est très théorique, pour essayer d'illustrer un peu qu'est-ce que c'est un quartier prioritaire de la ville, nous allons parler de ce que l'on est censé connaître, qui est notre environnement direct, qui est celui du Grand Saint-Barthélemy. Alors, le Grand Saint-Barthélemy recouvre combien de quartiers ?
Alors, le Grand Saint-Barthélemy recouvre 7 quartiers. Dans ces 7 quartiers, il y a donc la Busserine, Picon, Saint-Barthélemy 3, Fonds Vert, les Flamands, les Iris, et une copropriété qui, à l'époque, n'était pas dégradée, mais qui aujourd'hui l'est, c'est celle du Mail. Voilà. Et donc, le Grand Saint-Barthélemy a été édifié entre 1960 et 1975. Et il est dans le quartier prioritaire répertorié sous l'indice 013-049, qui regroupe également les quartiers de Bon Secours, les Rosiers, la Marine Bleue et Saint-Jérôme.
Bien, donc nous pouvons continuer. Alors, il y a eu ces émeutes qui ont créé pas mal de réactions sur les quartiers. Ces émeutes avec une pratique de une implantation de ces quartiers et l'intervention de plus en plus aiguë des politiques publiques. Et parmi les institutions qui interviennent dans le cadre de la politique de l'État, il y a
la métropole.
Politique de la ville.
Oui, il y a les services politiques de la ville, la métropole, l'État.
Le département. Il y a eu un temps où il y avait la région,
mais c'est plus le cas. Il s'est retiré du contrat de ville.
Mais cela va bien au-delà, parce que nous rappelons que pour le 14e, il y a eu un antécédent qui était l'affaire Andrieux, n'est-ce pas, Saïda? Tu te souviens? Peux-tu rappeler un peu les effets? Et que la région, à l'époque, c'était Michel Vauzel, et que la région a réagi en supprimant toutes les subventions à l'ensemble des associations du 14e.
Oui, triste histoire. Donc, l'histoire du clientélisme politique à Marseille. Donc une députée, conseillère municipale, adjointe au maire, etc., qui était très connue dans le 13-14. Et le problème, c'est qu'elle dilapidait l'argent public en le donnant à des gens qui n'étaient pas du tout dans le travail, ni pour le social, ni pour le logement, etc. Et que donc, une fois que les choses se sont sues, que donc elle a été jugée, condamnée, donc je ne sais pas si c'est encore le cas, mais elle portait un bracelet à la cheville, y compris à l'Assemblée nationale. Donc cela a entraîné le fait que la région s'est désengagée parce qu'elle ne sait pas comment gérer les relations avec les habitants, et notamment les relations avec les associations, puisqu'il y avait plein d'associations... disons, le bidon qui était là juste pour servir le politique. Donc, et depuis, bon, malheureusement, donc la région s'est désengagée de cette problématique.
Donc, merci Saïd. De surcroît, on peut rappeler que cette affaire est bien relatée dans Marseille en résistance, n'est-ce pas? Cet ouvrage aussi que tout un chacun doit se procurer pour comprendre un peu les méandres de la politique marseillaise. Donc, voilà. Il y a quelques chiffres pour mieux appréhender un peu cette réalité socio-économique de Grand Saint-Barthélemy. Est-ce que nous avons des chiffres, que ce soit... Bon, toi, je pense, lorsque nous en avions parlé, c'était en 2000. Ils datent maintenant.
Oui, j'ai les chiffres de la création du Grand Saint-Barthélemy et ceux de 2000 également, exactement. Donc à la création du Grand Saint-Barthélemy dans les années 70-75, il y avait 70% d'actifs ouvriers au recensement, contre 45% pour l'ensemble de Marseille. Et sur le territoire, il y avait approximativement 6 000 habitants. Pardon. Dans les années 2000, l'évolution du nombre d'habitants a énormément changé, on peut dire implosé limite. Donc on passe de 6 000 en 75 à 20 000 en 2000. Et le taux de chômage est à environ 50% de la population active. 47% des habitants n'ont pas de diplôme, contre 23% à l'échelle de Marseille. Et 90% des salariés ont un revenu inférieur à la moyenne nationale.
Est-ce que cela a changé, Virginie Dumauve ? Est-ce que vous avez des chiffres plus récents ?
Alors, moi, j'ai quelques chiffres plus récents. Sur le 14e, en fait, en 2020, le taux des chômeurs était à 15,1%, les actifs ayant un emploi à 43,9%, les retraités 3,8%, bon, c'est le 14e, hein, c'est tout le 14e. Les élèves étudiants et stagiaires non rémunérés, on est à 13,9%, et autres inactifs, on est à 23,4%. Donc, effectivement, on va dire que, comme on disait ici, sur le 14e, le taux de chômage est à peu près deux fois celui de la moyenne nationale. Voilà. Moi, après, c'est vrai que je reçois beaucoup aussi de jeunes, on va dire, en décrochage scolaire. Donc, d'où la difficulté aussi, après, d'essayer de les réinsérer, que ce soit au niveau d'une formation ou au niveau de l'emploi. Voilà, tout le travail est là, c'est de réussir à rattraper le wagon des personnes qui lâchent l'école, surtout après cette période de Covid, qui a quand même été assez compliquée pour les jeunes. Et voilà. Après, moi, j'ai aussi des chiffres par rapport aux personnes que je reçois, mais bon, voilà, c'est assez vaste.
Oui, donc, effectivement, voilà. C'est autre chose. Madame Castel, vous pouvez intervenir si vous avez aussi des chiffres
oui.
Pour arriver à cerner un peu la problématique.
Alors, c'est vrai que moi, j'ai pris l'axe quartier prioritaire de la ville, et Marseille, notamment. Donc déjà, globalement, hein, au niveau national, oui, le taux de chômage est 2,5 fois supérieur dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville, que le taux de chômage national. Donc, c'est vrai que c'est une donnée importante. Alors, on a fait un diagnostic, parce que c'est important pour Pôle emploi aussi, de constater ces inégalités. Et ces inégalités qui sont marquantes, bien sûr, dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc oui, un taux de pauvreté plus que conséquent. Une proportion aussi de familles monoparentales dans les quartiers prioritaires de la ville. Une moindre part des femmes dans la population active. Un taux d'emploi inférieur de 4,5 points. Par rapport donc aux autres arrondissements de Marseille sans QPV. Et puis le public, moins qualifié. Aujourd'hui, le public infra-bac, inférieur au baccalauréat, représente, et c'est quand même très, très important dans les quartiers prioritaires de la ville, 65% de notre demande d'emploi de fin de mois. Donc voilà, c'est une donnée importante. Donc on sait que nos habitants des quartiers prioritaires de la ville rencontrent des freins périphériques, du coup, d'accès à l'emploi, des freins linguistiques, d'accès aux droits, numériques aussi, de mobilité. Voilà. Donc il y a, et effectivement, la crise sanitaire, mais on viendra peut-être tout à l'heure, accentuer aussi ces freins-là.
Justement, concernant la crise sanitaire, la Covid-19, apparemment, avec l'INSEE et l'ANCT, plutôt Agence nationale de la cohésion des territoires, vous a été mis à disposition un fichier mensuel des demandeurs d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un peu plus ou pas ?
Je ne vois pas de quel fichier vous parlez.
C'est ce que j'ai pu lire et avoir. C'est un fichier mensuel qui permet de dire un peu quel est le nombre, si ça va croissant.
Alors oui, je peux vous dire par contre l'effet du Covid
voilà,
sur le taux de chômage. On a une augmentation en 2020. Pour les Bouches-du-Rhône, par exemple, c'est plus 6%. Voilà, sur les catégories A. Il faut voir que la crise sanitaire, il y a aussi l'effet du chômage partiel et que parmi ces demandeurs d'emploi, là, on ne mesure pas l'effet du chômage partiel parce qu'ils ne sont pas comptabilisés comme demandeurs d'emploi. Mais déjà, on a 6%. Donc oui, un taux de chômage qui a bien sûr augmenté. On était de 9,9 en 2019 à 10,3. On a aussi une baisse des offres d'emploi pour 2020. Alors, pas dans tous les secteurs. Il y a certains secteurs qui sont restés quand même assez relativement stables, et je pense au bâtiment. Mais bien sûr, l'hôtellerie-restauration a fait une grosse crise, même si là, on redémarre. Et sur les déclarations d'embauche, on est à moins 13%. Voilà. Oui, un effet de la crise est accentué, on le voit, pour nos publics dans les quartiers prioritaires de la ville.
Monsieur Belmokhadem, est-ce que cela vous parle, tous ces chiffres, puisque vous intervenez au niveau un peu de l'Hexagone? Donc, est-ce que vous avez pu observer les mêmes effets de cette crise au niveau de l'emploi, surtout dans les quartiers prioritaires de la ville?
C'est un peu compliqué. Ce qu'on observe, nous, c'est qu'il y a un vrai désastre dans les quartiers. Très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui qu'on le mesure réellement. C'est que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, beaucoup de gens ne travaillent pas, beaucoup de gens ont faim aujourd'hui et ils n'ont pas beaucoup d'alternatives. Moi, j'ai peur de l'après-crise. Voilà. Et aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure parce qu'on est encore là pour une heure. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec les partenaires, l'ensemble des partenaires institutionnels, associatifs sur le territoire ici, mais avec d'autres acteurs sur d'autres territoires, je pense que ça commence à être des éléments de réponse. Mais il faut se soucier de nos publics, notamment dans les quartiers prioritaires et dans le monde rural, du post-Covid, parce qu'il va y avoir vraiment, vraiment, vraiment de la casse.
Merci beaucoup. Nous allons faire une pause musicale, sachant que lorsqu'on parle des quartiers prioritaires, ce sont des quartiers populaires d'abord et prioritairement. Merci, Sidi.
Vas-y, toi, arrête de me prendre la tête, là. Tu faisais quoi avant? Y'a pas de thune, on fait ce qu'il y a à faire. C'est pas toi qui nourris ma mère. Alors laisse-moi tranquille un peu. Moi, je veux de l'oseille. De l'oseille. Y'a que ça de concret pour moi. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets.
Tu veux quitter l'école? Tu pètes les plombs, tu déconnes.
Non, non.
Où tu vas, beaucoup ont été. Mais autant que leur sourire, leur avenir y est resté. Ça fait de trois générations qu'on fait les mêmes choses. Pas de la même manière, mais on se fout en l'air pour les mêmes causes. Les mêmes toxicos arrachent leur mère pour les mêmes doses. Les halls changent d'aspect, mais nos frères gardent les mêmes poses. Sais-tu à quoi tu t'exposes? Si t'allumes la mèche, petit frère, faut bien que ça explose. Les mêmes contrats avec la rue, contenant les mêmes clauses. On bute si tu causes trop. Respire si t'es claustro. La rue c'est étouffant, y'a que t'es malade, c'est l'hosto. Les parcours atteints de scoliose, plus personne ne marche droit dans la névrose. C'est ça que tu veux, Bene? Dis-moi, est-ce que c'est ça que tu veux?
Vas-y, laisse-moi là.
Est-ce que c'est ça ta vie, Bene? Dis-moi, est-ce que c'est ça que tu vises?
Et alors? C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets.
Si t'arrêtes l'école maintenant, dès maintenant, je peux te raconter ce qui risque fort de t'arriver, Bene. Tu vas monter une équipe, un ancien t'avancera de la coke et du shit. Pour la bicrave, il te faudra un terrain. Comme t'es jeune et brave, tu l'obtiendras à coup de surin. Et là, tu prendras la place de mecs qui sont en place depuis trop longtemps et qui oublient que le temps passe, mais chacun son temps. Toutes nos légendes sont mortes ou déchues, enfermées ou fichues, parce que trop de séjours en prison, trop de séjours en HP. Quand je rappe la rue, c'est précis, c'est de la HD. Du détail au gros, avec du cran et des gros flingues, tu feras des grosses tubes. De la bac au stup, victime de ta répute, tout le monde aura un œil sur ta fortune. T'auras plus besoin de personne pour t'avancer quoi que ce soit. Tu descends en Espagne, que pas ça. Maintenant c'est toi qui distribues, et d'autres attendent dans l'ombre patiemment que tu trébuches.
Ils peuvent toujours attendre ma chute.
Ah bon?
Je serai toujours à la hauteur de ma rebute. Je serai rusé, j'aurai confiance en personne, sauf à mes associés. Tous des cassos sur le JC. C'est maintenant.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy, nous allons poursuivre avec nos invités. Mais avant de leur laisser la parole, lorsqu'il s'agit de parler d'emploi, concernant les habitants de nos quartiers, nous pouvons parler aussi, évoquer un fléau qui est celui de la discrimination, n'est-ce pas Saïd ?
Ben oui, malheureusement, tout le monde connaît cela, c'est-à-dire que la question de l'emploi n'est pas seulement une question d'emploi, c'est une question de discrimination qui est dans tous les domaines. Donc si on vit dans des logements qui ne sont pas aux normes, si on vit dans des logements suroccupés, évidemment les enfants ont beaucoup de mal à étudier. Si les parents eux-mêmes n'ont pas eu la chance de faire beaucoup d'études, c'est aussi un autre problème qui est posé. Tout le monde sait aussi que l'école française est une école inégalitaire depuis toujours, et donc on fait seulement de dire « bon, on va mettre des moyens en plus, etc. » En fait, c'est faux. Beaucoup de gens pensent que les zones qu'on appelle REP, donc, qu'on appelait avant ZEP, éducation prioritaire, tout le monde pensait qu'il y avait beaucoup d'argent qui était donné là. En fait, les études ont montré que c'est, même si formellement on dit qu'on rajoute des moyens, en vérité non. C'est-à-dire que le seul fait que d'avoir des profs soit très jeunes, soit des remplaçants, etc., alors que d'autres établissements ont des professeurs confirmés. Donc les établissements les plus favorisés ont les professeurs les plus confirmés et donc les plus chers. Et donc en vérité, les choses n'ont pas beaucoup bougé depuis les années, alors qu'on a toujours l'impression que les choses changent, alors que la réalité, c'est que ça ne change pas beaucoup. Et donc, tout cela fait que, évidemment, la question de l'orientation est une question qui est très, très importante. Et c'est vrai que souvent, on se retrouve dans des situations un peu compliquées, c'est-à-dire que toutes les familles disent « mon enfant, je veux qu'il soit avocat, médecin, etc. etc. » Et donc, souvent, ça finit dans des impasses, c'est-à-dire que des jeunes qui avaient des capacités mais qui n'étaient pas excellents, qui n'ont pas pu faire d'études supérieures longues, ils se retrouvent à travailler dans des emplois un peu précaires du style caissière de supermarché, alors que s'ils avaient pu avoir des vrais choix, une vraie orientation, ils ont pu faire des métiers tout à fait honorables, qui sont des métiers qu'on dit manuels. Mais donc on voit bien que ce genre de choses-là, l'image de ces métiers n'a jamais été revalorisée, alors que chaque année, on dit oui, ça va être revalorisé, oui, c'est important, etc. Un dernier élément, là bientôt, enfin, ce ne sera pas le cas cette année, mais c'était le cas toutes les années, au moment du bac, les résultats du bac, général, on les avait le jour même, c'était la télé, toutes les radios en parlaient tout le temps, et ceux qui faisaient des CAP, des bacs pro, etc., tout le monde s'en fichait, quoi.
Et à égalité de diplôme, à égalité de compétences sur le marché du travail, comment les choses se passent-elles ? Y a-t-il des réponses à apporter ? Ou bien reconnaître effectivement qu'un fait, c'est une réalité aussi, que ce soit pour les logements, l'accès au logement aussi. Moi, en tant que Martiniquais, en ayant un prénom et peut-être un nom français aussi, lorsque l'on me voit, et sans accent, autant que faire se peut, comment les choses se passent. Lorsque je me présente auprès d'un propriétaire ou d'une agence, généralement on me dit « mais non, l'appartement, le logement est déjà pris ». Donc pour cela que lorsqu'on parle de discrimination, nous sommes en 2021, ce sont des faits qui existent toujours. Alors, voulez-vous réagir ? Je vois que vous avez pris le micro.
Ouais, oui, parce que je suis touché par ça aussi. J'ai été touché par ça aussi, comme tout le monde, que ce soit dans la qualification, parce que je ne sais ni lire ni écrire, donc j'ai aucun diplôme. Le seul diplôme que j'ai mis 10 ans pour l'avoir, c'est mon permis. Donc voilà, donc ça a été très compliqué. Après, moi, j'ai pris le pari qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va baisser les bras, je vous donne un exemple, hein, j'ai cherché du boulot comme tout le monde, j'ai jamais été au chômage de ma vie et j'ai pas de diplôme. J'ai fait comment ? Quand quelqu'un fait une recherche d'emploi. C'est un peu ce qu'on fait dans nos informations collectives, par exemple la semaine dernière au centre social. Le conseil que je leur donne, c'est la recherche d'emploi, c'est un temps plein. C'est 5 jours sur 7 et c'est minimum 5 heures par jour. Quand au bout de 3 mois, tu ne trouves pas de boulot, à ce moment-là, tu peux dire s'il y a de la discrimination ou peu importe. Mais tant que tu n'as pas fait ça, il n'y a pas de fatalité. Il y a de la place pour tout le monde. Qu'il y a des entreprises qui discriminent, c'est clair, il y a des rapports, des machins. Si on continue à en parler, on perd notre temps. Parlons de ce qui marche. Parlons du fait qu'il y en a qui réussissent, qui avancent. Et arrêtons de me prendre l'exemple de Jamel Debbouze et Zidane. Il n'y en a qu'un et il n'y en aura qu'un. On est à Marseille. Zidane, c'est une statue.
C'est terminé, ça. C'est, hein. Bon, voilà, donc, il n'est plus de Marseille.
Mais moi, ce qui m'intéresse, lui, il ne m'intéresse pas. Alors, il m'a intéressé en tant que footballeur, bien sûr. Il m'a intéressé comme entraîneur, comme capitaine de l'équipe de France. Mais celui qui m'intéresse, c'est le petit jeune que j'ai vu en information collective vendredi au centre social, qui recherche un emploi, qui a eu un diplôme, un CAP, et c'est ça qu'il faut valoriser. Il faut valoriser des réussites de proximité pour que les gamins dans la proximité se disent « je veux ressembler à lui ». Moi, dans mon quartier, je voulais ressembler à un grand de mon quartier. Pourquoi ? Parce qu'il était chef d'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, si moi je peux donner cette vocation-là à d'autres gamins de se dire je veux ressembler à lui parce qu'il est chef d'entreprise, eh ben, tant mieux, c'est réalisable, c'est accessible, il faut juste se battre.
Saïd, en amont, avant de poursuivre, tu voulais poser une question.
Ah oui, pour préparer cette émission, Jean-Marc m'a dit on va recevoir un cabinet qui s'appelle Nécessité. Pour moi, Nécessité, c'était le nom commun, en fait.
Alors, en fait, c'est un jeu de mots donc, qui s'écrit en trois mots. NES. NES plus loin, ET plus loin, CITE, CITE. En fait, NES, ça a plusieurs significations. D'abord, tout d'abord, c'est le prénom de ma fille qui s'appelle Inès. Donc on a enlevé le I. NES, en arabe littéraire, ça veut dire les gens, la population. On s'occupe des gens et de la population. Et puis, sans faire exprès, c'est une amie qui m'a donné cette définition-là. En hébreu, ça veut dire l'espoir. Voilà. Et toutes les trois définitions, pour moi, elles me conviennent parfaitement bien et ça représente vraiment ce qu'on fait.
Eh bien, merci pour ces éléments de réponse. Alors, pour continuer par rapport à la discrimination, je rejoins tout à fait les propos d'Abdel, dans le sens où il ne faut pas attendre que l'on puisse nous donner, c'est qu'il faut aussi être en capacité à essayer de prendre. Donc, la journée du 9 juin, comment s'est-elle organisée ? Qui c'est qui est à l'initiative ? Et nous rappelons que le 9 juin, cela se déroule au stade Vélodrome. Hein. Donc c'est une rencontre employeurs et habitants des quartiers prioritaires de la ville de Marseille.
Alors, oui et non. Alors, d'abord, on est à l'initiative de ça, puisque depuis 20 ans, on fait des opérations un peu partout dans les stades de Ligue 1. On a plusieurs formats. Le stade, c'est le plus gros format, mais on a d'autres formats. On a répondu, on a été retenu sur un appel à projet l'année dernière dans le cadre du PRIC en PACA, voilà, pour faire notre tournée des stades, les trois stades. Donc on commence par le stade Vélodrome le 9 juin, le 20 octobre prochain on fera le RC Toulon, voilà, et puis en mars, on n'a pas encore calé la date, on fera l'Alliance Riviera qu'on a déjà fait il y a quelques années en arrière. Voilà. Donc nous, notre concept il est rodé. Voilà. L'idée c'est et c'est ce qui est intéressant pour nous, ce qui nous intéresse au-delà, en plus de l'emploi et en plus des jeunes. Alors, c'est d'abord un forum emploi ouvert à tous, à tout le monde, à tous les Marseillais. Ce qui nous distingue, et là, on ne parle pas d'égalité des chances, parce que je n'aime pas parler d'égalité des chances, je préfère parler d'équité. On fait un travail spécifique pour les jeunes des quartiers prioritaires. C'est quoi ce travail spécifique ? C'est que depuis 2 mois, nos équipes de médiation RH sont sur le territoire et vont à la rencontre des habitants, soit en faisant du porte-à-porte et en les préparant chez eux, soit en s'appuyant avec les partenaires, là, Virginie est ici, Pôle emploi, Marielle Castel est ici aussi. On organise des informations collectives dans les structures de proximité dans les quartiers, et on essaie de préparer les candidats, soit chez eux, soit avec les partenaires sur le territoire. Voilà. Après, ce qui nous intéresse, c'est une histoire improbable, en fait. Quand on regarde le profil des acteurs, nous, on porte le projet, bien sûr, on est retenu dans le cadre du PRIC. Mais quand on regarde nos partenaires aujourd'hui, mais il y a 20 ans, si on m'avait dit ça, et pas 20 ans, il y a 5 ans, si on m'avait dit ça, je l'aurais pas cru. Aujourd'hui, on a un club de foot de Ligue 1, pas n'importe lequel, l'OM. Les seuls, et peut-être à jamais, à avoir gagné la Ligue des Champions, qui sont partenaires.
Merci
de rappeler. Et c'est un Lyonnais qui dit ça. On a un mastodon de l'emploi en France. C'est le numéro 1, c'est Pôle emploi. Et on a un petit cabinet de banlieue qui s'associe à trois pour essayer de créer, donner une chance ou plusieurs chances à des candidats. Pour moi, c'est improbable. C'est improbable. Voilà. Et je tiens à saluer, moi, les acteurs institutionnels, notamment Pôle emploi, parce que sans eux, c'est clair que c'est plus compliqué. Mais on est obligé d'avouer et de reconnaître que à Marseille, en particulier, on a été très, très bien accueillis. Et nous, on nous voit, et puis on est devant, parce qu'on porte le projet, parce que c'est... Mais très honnêtement, si ça fonctionne, c'est parce qu'on a des partenaires à nos côtés et des partenaires qui jouent le jeu. Pôle emploi en fait partie, les centres sociaux...
Agora.
Agora, le centre social Agora en fait partie. Tout un tas d'acteurs qu'on a croisés un peu sur l'ensemble du Grand Barthélemy, mais bien au-delà. J'étais ce matin à Aubagne, demain je suis au on fait la tournée un peu de tout le territoire. Tout le monde joue le jeu. Mais si on n'avait pas eu cette rencontre improbable de trois acteurs dans trois domaines différents s'associer pour une cause, avec le soutien de l'État, bien sûr, hein, sans l'État, voilà. Et là, il faut en dire deux mots, parce que pendant très longtemps, même si vous ne m'avez pas posé la question, je vais y répondre quand même. Vous m'avez...
Mais c'était pour plus tard. Bon,
on va sur la lancée. Pendant très longtemps, on a mis beaucoup de pognon à tort et à travers. Et quand je dis beaucoup de pognon, je parle de quelques milliards, hein. On ne parle pas de centaines de millions, hein. Dans la démolition, reconstruction et démolition, reconstruction des quartiers. On a reconstruit la France sur la France au moins 4 fois. On a juste oublié qu'il y avait des hommes et des femmes qui habitaient sur ce territoire-là, qui étaient en difficulté et qu'il fallait peut-être mettre un peu plus d'argent sur l'accompagnement social et en particulier sur les questions de l'emploi et de la formation. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait partie des acteurs qui ont tapé sur les institutions pendant des années parce qu'on ne mettait pas assez de moyens sur les questions de l'emploi et de la formation. Il faut reconnaître que depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous me corrigez, Marielle, on met beaucoup plus de moyens sur les questions de l'emploi, de la formation, de l'éducation. Et on le voit aussi à travers les dispositifs qui ont été mis en place, hein, le 100% inclusion, le PRIC, le PIC, le PRIGE qui sort. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs et beaucoup d'acteurs aujourd'hui se mobilisent sur ces sujets-là. Donc ça, c'est pour nous, c'est du jamais vu. Alors pour vous qui êtes encore plus expérimenté que moi et qui avez connu les années 80, bah, c'est exceptionnel.
Oui, Saïd.
Oui, justement, j'ai vu un certain nombre de forums emploi et moi je trouvais que c'était plutôt décourageant, c'est-à-dire qu'on voit souvent les mêmes, c'est-à-dire les pompiers, les gendarmes, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites de plus que ça? Parce que si c'est faire la même chose, ça mène pas très loin.
Oui, alors un peu plus de 20 entreprises, 22 entreprises, parmi lesquelles bah, Steph, par exemple, qui viennent avec... on a à peu près entre 70 et une centaine de postes à pourvoir. Sur l'ensemble de l'opération, il y a entre aujourd'hui un peu plus de 350 postes. Je pense qu'on sera au final à 500 postes à pourvoir sur la journée et bien au-delà de la journée. On a Castorama, Leroy Merlin, Fatec, une entreprise locale, une petite PME locale marseillaise qui grandit. On a une vingtaine d'entreprises. Parmi eux, oui, on a l'armée qui sera aussi là. S'ils recrutent. On aura aussi la police, ça nous intéresse. Hein. En tout cas, on a globalement entre 350 et 500 postes à pourvoir. Et 65% des postes à pourvoir sont destinés à des personnes peu ou pas qualifiées. Important à avoir en tête. Voilà. L'opération, c'est le 9 juin au Stade Vélodrome, dans les loges du Stade Vélodrome. Mais ça ne s'arrête pas le 9 juin. Derrière, on a mis un outil en place. On a un partenaire qui s'appelle Ergo, qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est aussi dans la co-organisation, qui est une plateforme numérique qui permet d'enregistrer tous les candidats qui viennent sur l'opération. Nos médiateurs RH les ont déjà enregistrés, ceux chez qui on est allé en faisant du porte-à-porte ou dans les informations collectives qu'on a fait avec Pôle emploi ou dans les centres sociaux. On les a enregistrés et pendant un an, il y a un algorithme qui permet de faire le matching sur les soft skills des candidats par rapport aux postes qui seront mis par les entreprises sur l'application.
Pardon, soft skills, c'est de l'anglais?
Ouais, alors c'est les compétences douces des candidats. En fait, sur un CV, vous avez les compétences diplômantes. Et puis comme moi, quand vous n'avez pas de diplôme, eh ben, mes compétences douces à moi, c'est quoi? C'est la résistance, Alors la bagarre, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que homme de challenge, on dit ça plutôt moderne, moi je dis la bagarre, mais j'aime bien les challenges, voilà. Ça c'est des compétences douces qu'on ne retrouve pas dans un CV. L'algorithme permet de détecter ça et de poser, prépositionner des candidats dans l'entreprise, une alerte va directement à l'entreprise, une alerte va directement au candidat et le matching se fait automatiquement. Ça veut dire que le 9 juin, c'est pas, tout ne se joue pas le 9 juin pour tous les candidats, il y a un an d'accompagnement avec l'application derrière et pendant un an, on fait trois autres petits job dating pour les candidats qui seront venus et qui ne veulent pas trouver un emploi. Pour le coup, là, c'est des petits formats et on sélectionnera les candidats en fonction voilà, des entreprises qu'on aura sur les petits formats.
Donc oui, Madame Cassel, vous souhaitiez intervenir.
Oui, je voulais intervenir. Je voulais revenir sur la discrimination et les discriminations et les moyens dont vous parliez. C'est vrai que les moyens, ils y sont. Le problème, c'est qu'ils sont pas connus forcément par tout le monde, par l'ensemble aussi des résidents en QPV. Donc oui, puis ces moyens ont évolué. Je voulais revenir sur le programme régional d'investissement dans les compétences. Qu'est-ce que c'est que ce programme ? Il y a trois axes. Il y en a un qui est vraiment centré sur la certification et la qualification. Donc demain, aujourd'hui, un jeune ou un adulte qui a besoin d'avoir une formation certifiante et qualifiante, qui n'a pas son bac, ben oui, il peut faire une formation et Pôle emploi, avec l'aide de l'État, finance cette formation. Et ça, on a vraiment, aujourd'hui, et ce, depuis 2 ans, avec le PRIC, vraiment beaucoup d'offres de formation. Donc, il faut le savoir, ça, c'est l'axe 1. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un diplôme dans leur parcours scolaire dont vous parliez tout à l'heure, ben oui, là, aujourd'hui, on peut avoir une formation certifiante.
Excusez-moi, oui, est-ce que vous êtes sûr que ces formations mènent à quelque chose ? Parce que dans ma génération, j'ai beaucoup de jeunes qui disaient « j'ai fait un stage, puis un deuxième, voilà, puis un troisième ».
Alors là, je parle de formation certifiante avec des titres professionnels donc qui sont demandés par les entreprises. Il y a un diplôme et puis nous, on a des indicateurs. Et par exemple, aujourd'hui, si on regarde le taux de sortie à l'emploi suite à peu près à une formation, c'est 55% dans les 6 mois. Bon, c'est pas mal. Il faut en plus, là, on a les résultats face à la crise sanitaire. Donc 55%, on est quand même content de taux de sortie aujourd'hui. Donc oui, il y a aussi des jeunes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, qui ont d'abord besoin d'avoir une remise à niveau. Parce que pour avoir des diplômes, il faut quand même avoir un certain niveau de formation. Donc là, on a ce qu'on appelle l'axe 2, où on prépare aussi au monde du travail. On prépare ces fameuses soft skills ou compétences douces qui sont vraiment indispensables dans la vie de tous les jours. Et puis, le troisième axe, Pôle emploi a voulu qu'on oriente aussi des projets innovants, des formations qui changent avec d'autres méthodes plus agiles. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait passer un appel à projet et il y a eu le projet Nécessité. Et ça a été le premier lauréat, on m'a dit, de l'axe 3. Alors, pourquoi Pôle emploi a financé ce projet ? Nous, la démarche innovante d'aller vers les habitants, aller vers les résidents. Ça nous a beaucoup plu parce que c'est vrai que l'image un peu de Pôle emploi, c'est qu'on reste dans nos locaux, dans nos murs. On fait un peu peur, il faut le reconnaître, à certains types d'habitants, c'est ce qui est logique. Et certains jeunes n'osent pas franchir la porte de Pôle emploi. Donc là, ce projet et puis ce maillage territorial que fait Nécessité d'aller dans les assos, faire des informations collectives. Donc ça, on a trouvé super important pour nous parce que, quelque part, on n'a pas tous les demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui inscrits à Pôle emploi. On a plein de personnes qui sont en recherche d'emploi, mais qui sont non inscrits. Donc, il faut aller aussi les chercher. Et donc, dans cette démarche innovante, elle est intéressante. Alors, bien sûr, un événement à Orange Vélodrome, c'est super symbolique pour les habitants de Marseille. Hein, ça aussi, c'était important. Et nous, ce qui nous a beaucoup plu, et Abdel l'a dit, c'est la logique de parcours. C'est-à-dire, les gens sont suivis parce que beaucoup de forums dont vous avez parlé, on a du mal à évaluer si oui ou non ça marche. Là, il y a un vrai suivi avec la plateforme et on va pouvoir proposer d'autres actions. Donc voilà pourquoi Pôle emploi a financé ce projet. C'était ces trois axes où on alliait la proximité avec les habitants, la logique de parcours, pour nous qui est hyper importante, et puis l'évaluation. Donc là, voilà ce projet, pourquoi il nous a semblé vraiment innovant. Et puis là, c'est le Pôle emploi de Carré-Gabriel du 14e qui a été choisi. Et ça, c'est super pour nous, pour l'agence de Carré-Gabriel, pour travailler avec Nécessité et les partenaires sur sa mise en œuvre.
Est-ce par rapport à ce que propose Pôle emploi pour les jeunes qui ont été en contrat d'apprentissage ? Comme vous le savez, pendant la pandémie, ce sont sur toutes les petites unités économiques, telles que mécanique, coiffure et restauration, que tous ces gamins en contrat d'apprentissage, dont les restaurants ou autres sont amenés à fermer compte tenu de leur insuffisance financière, matérielle. Est-ce que cela peut être une réponse aussi à la problématique de formation des concernants ?
Oui, alors c'est vrai que la crise sanitaire était dure pour l'alternance. Enfin, pas forcément pour avoir le nombre d'alternants, parce que ça a bien augmenté, mais c'est surtout pour trouver les entreprises dans certains secteurs. C'est ce qui a été compliqué. Alors là aussi, c'est quand même une pointe d'optimisme. C'est ce mois de mai où on voit des chiffres s'améliorer. Moi, je vois le nombre d'offres d'emploi augmenter. L'hôtellerie, la restauration, par exemple, on a eu un forum là, récent au cloître. Donc, du coup, oui, on a le forum de l'alternance aussi en juin qui va avoir lieu. Donc voilà, il y a aussi ce qui manquait et ce qui a été très, très, très compliqué durant cette période sanitaire, c'est les événements. Voilà. Et donc là, la réouverture vers des événements de ce type-là, où on peut favoriser la rencontre entre employeurs et candidats, ben c'est vraiment une opportunité, un vrai moyen de se faire connaître, quoi, au-delà du CV qui reste effectivement. On a le sentiment qu'il n'est pas regardé, quoi. Voilà. Donc cette rencontre-là est importante pour nous.
La journée du 9 juin, je reviens à nécessité. Est-ce une forme de discrimination positive ? Parce que lorsque l'on voit la composition ethnique généralement des quartiers populaires, elle est un peu similaire. Ce n'est pas pour polémiquer, mais pour voir un peu. Et en plus, appartenant à une classe sociale bien déterminée. Est-ce que c'est un choix qui a été opéré ou bien le choix, c'est
non,
de...
Non, le choix, il est relativement simple. Hein. Moi, je viens de ces quartiers-là. Donc, je suis bien placé pour les connaître. Et surtout, je suis bien placé pour être l'interlocuteur des entreprises. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une médiation. J'étais médiateur. Donc, j'ai parlé aux entreprises en leur disant il y a des niches de talents qui sont inexplorés en France, vous n'y avez pas accès, j'y ai accès, et je vais vous aider à y accéder. Donc au départ, ils ne m'ont pas cru, et quand on a fait notre premier événement il y a 20 ans, eh ben, aujourd'hui, ces entreprises-là sont fidèles, ont fait évoluer leur politique RSE en interne, et aujourd'hui, ces questions-là d'équité, elles ne se posent même plus dans ces entreprises-là.
D'accord. Encore une fois, je demande une explication. RSE.
Ah, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Ah. Aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises sont notées sur leur politique RSE. Après, en très longtemps, les politiques RSE, c'était... ne m'en voulez pas, je ne suis pas bio et tout ça, mais c'était plutôt tourné vers l'écologie. Voilà. Voilà, dans l'impact écologique, voilà, l'impact carbone et tout ça. Aujourd'hui, c'est l'égalité de traitement homme-femme dans l'entreprise. Ça fait partie des politiques RSE. Les personnes handicapées aussi, qui peuvent accéder à l'emploi aujourd'hui. Et puis les minorités visibles. Voilà, et j'en passais des meilleurs. Donc du coup, la politique RSE, c'est ça aussi aujourd'hui.
Pensez-vous que l'organisation d'une telle journée peut faire changer un peu la posture, le positionnement des habitants ? Dans la mesure où ils ont été sujets à tellement d'échecs, de refus, par rapport à leur manque de qualifications, de formation et autres, et que cela leur laisse entrevoir un peu une porte d'espoir, quelque part, en organisant de telles journées, d'une part, et d'autre part, bon, il me semble qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré le fait qu'ils ne trouveront jamais de boulot. À quoi ça sert de se casser la tête, alors qu'ils connaissent un cousin, ils ont un frère qui ont fait des diplômes, qui sont allés à l'université, et qui ne trouvent pas de boulot. Comment faire changer un peu les choses ?
Alors, ce jour-là, on va être honnête, hein, tout le monde ne trouvera pas de boulot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met une dynamique, c'est le démarrage d'une dynamique. Et puis surtout, on va redonner espoir. Aujourd'hui, ce qui manque aux gens, c'est de l'espoir. On ne leur donne plus d'espoir. Aujourd'hui, l'idée, c'est de leur redonner espoir. Les meilleurs témoins, c'est ceux qui vont trouver un emploi. Voilà. Après, ce qu'on a mis en place avec Pôle emploi, encore une fois, et tous les acteurs sur le terrain... L'idée, c'est de se dire, le 9 juin, c'est un point de départ, c'est pas une finalité. Voilà, c'est que derrière, il y a encore, on a mis en avant l'innovation technologique avec Ergo. C'est aussi pour permettre aux candidats de leur dire, on vous suit pendant un an. Voilà, si vous n'avez pas de chance sur l'opération, pendant un an, vous aurez des propositions. Voilà. Après, il n'y a pas de fatalité. De toute façon, aujourd'hui, ceux qui trouveront un emploi, c'est ceux qui se réveilleront le matin et qui iront chercher un emploi.
Oui, Saïd, tu voulais aussi
concrètement le 9 juin au Stade de Drôme. Comment ça se passe?
Nous allons parler, nous allons faire de bonnes pauses musicales avant cela, puis après ça fait partie de la dernière partie que nous aborderons. Et bon, allez-y si vous voulez.
Je voulais juste rajouter sur les moyens, il y a quand même des mesures pour l'emploi aussi. Et qu'on connaît, que les jeunes ou même les entreprises connaissent pas forcément toujours malgré notre travail de communication, et notamment pour les habitants dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a les emplois francs. Donc là, il y a quand même une aide importante de l'État. Il y a les emplois francs plus pour les jeunes. On a aussi les PEC aujourd'hui avec par exemple 80% de prise en charge pour les résidents en QPV. Donc voilà, il y a des moyens, je ne vais pas tous les énumérer, mais voilà, il y a des moyens qu'il faut connaître, et il faut accompagner aussi les entreprises à cette ouverture-là et aussi à cet intérêt bien sûr financier pour faciliter l'employabilité des habitants QPV. Voilà, donc les mesures existent aussi. Et je revenais sur la stratégie de recherche d'emploi parce que aussi, nous, paradoxalement, nos entreprises nous disent « mais j'arrive pas à trouver de monde ». Il y a ce paradoxe-là. Les habitants ou les jeunes qui se disent « mais il n'y a pas de boulot », et de l'autre côté, ben, moi, j'ai personne. Voilà. Et nous, pour faire l'adéquation, ben, y a des moyens. Et ces moyens sont les mesures. C'est aussi les prestations, parce que des fois, des jeunes, ils ne savent pas se vendre. C'est compliqué, la recherche d'emploi.
Bien sûr.
Il faut savoir d'abord avoir l'idée d'un métier, avoir fait un CV ou avoir un outil, se présenter, s'exprimer. Donc là aussi, on a des moyens et d'ateliers ou de prestations pour aider les demandeurs d'emploi sur cette recherche. C'est une stratégie, la recherche d'emploi.
Eh bien, merci. Notre pause musicale, ça peut, chez Mar, ça peut marcher, n'est-ce pas? Grand Corps Malade et Chocolate. Merci.
Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui, à 15h25.
Allô, Fab? Ouais, c'est Samy. Eh frère, rappelle-moi d'urgence quand t'as le message. J'ai une idée de ouf. Non mais là, tu sais quoi, obligé, ça peut schémar.
Combien de bonnes âmes s'attendriront sur notre parcours ? Peut-être les mêmes qui, à l'ancienne, n'auraient jamais cru qu'en ce jour, le soleil caresserait nos ailes en donnant raison à notre zèle. Petite tête, tu me traitais de brêle, mes ambitions, tu te foutais d'elles. Mais hélas, pour ta gouverne, sache qu'on a bien repris les rênes, aussi sûr qu'on se démène pour ne jamais plus être à la traîne. On nous disait que ça craint, là d'où l'on vient, pour compter vivre de nos passions, au point qu'elles nous consument à petit feu sans rémission. J'ai dû slalomer pieds nus et sans ski, il m'a fallu traverser la toundra et plus sans husky. Pour devenir maître de mon devenir, j'ai frôlé la crucifixion. Mais j'en ai conclu que nos rêves sont à notre portée. Encore faut-il accepter de souffrir pour les mériter. Alors si tu doutes et que t'en as marre, surtout n'enterre jamais l'espoir. Sur la pendule des acharnés, à tout moment, ça peut schémar.
Des projets noués, nos potes, on en a eu plein nos poches. Trouver la bonne idée au bon moment pour ne pas rater le coche. Quels que soient les domaines, social, culture ou dans le sport, il nous fallait tenter notre chance, on ne pouvait pas avoir tort. Des idées les plus farfelues aux projets les plus tangibles. Étions-nous simplement têtus, rien ne paraissait inaccessible. Le plus grand des océans devenait pour nous une petite mare. Lorsque cette phrase résonnait, je te jure, ça peut schémar.
Ma raison d'être a pris le pas sur ma raison sociale. À toutes les prisons du paraître, j'ai mis un retourné facial. Aviez-vous remarqué que l'ascenseur social est bloqué et que les experts ont bien mieux à faire que de le réparer? Sur ma lancée, je devais poursuivre, alors j'ai pris les escaliers. Mais à ma grande surprise, il n'y avait plus de marche après le premier palier. On a donc dû relever les manches, t'as fait dur même les dimanches, quitte à se faire bébard. Et dans nos têtes, on se répétait en boucle, t'inquiète, un jour ça va schémar.
Je me souviens même plus vraiment quel était notre but final. Voir le quotidien différemment, tenter un truc original. Évidemment, ne soyons pas naïfs, on voulait aussi faire des sous. Mais si c'était le seul objectif, on aurait souvent été déçus. Finalement, notre ambition, c'était de se créer des rêves, s'offrir une vraie récréation, que le réel nous offre une trêve. Et puis surtout, être fier de construire avec ses potes. On avait besoin de ça, grandir, pour changer d'époque. Combien d'heures accumulées, en bas de chez toi, dans la voiture, à refaire le monde et à dessiner notre futur. Combien d'idées d'excitées on a citées au pied de ta cité, et si t'es comme moi, tu referais la même sans hésiter.
À tous les gosses meurtris de briller dans l'indifférence, d'une société qui les néglige puis les accuse de nonchalance. Un hymne à mère patrie qui brise le talent et passe son cri sous silence. Une clameur se fait entendre et bat la mesure en cadence. France, des fois je te hais, parfois tu m'émeus. Mais souvent je me tais car je sais qu'au fond je t'aime. Mais il serait temps que tu rendes hommage à tous ces talents détruits. Fais donc ton tri au mérite et il y aura beaucoup moins d'aigris. beaucoup moins de jeunes épris du lointain modèle états-unien. Parce que réussir ailleurs reste encore le seul moyen d'obtenir ton soutien. Si beaucoup se barrent, c'est pour chasser des chimères autre part que dans leurs cauchemars. Rappelle-les sur tes terres et montre-leur qu'ici aussi, pour eux, ça peut chémar.
Alors on a monté des projets loin des projecteurs pour éviter les projectiles des rageurs jeteurs de sorts. Est-ce la mentalité de banlieue ou la mentalité française? Mais les meilleures idées sont souvent celles qui se taisent. Doit-on vraiment changer d'envie ou changer d'environnement pour se fixer des objectifs et les atteindre ouvertement? Des mecs qui jettent le mauvais œil, on en connaît depuis le préau. Je dois avouer que même entre nous, on sait pas toujours tirer vers le haut. Mais fini de s'imposer notre propre censure, on n'a pas de censure les mains. Alors pourquoi ne pas être sûr qu'on est sur le bon chemin? Nous n'étions pas forts, mais ce passé nous a formés. Et plus jamais je me marre quand j'entends cette phrase résonner.
Les échos sur 88.4 de la bande FM, en direct du comité Maméga avec nos invités, Madame Castel, Madame Ormelin Dumauve et Monsieur Abdel Belmokadem de Nécessité. Alors Saïd, nous en arrivons à la journée du 9 juin.
Alors le 9 juin, au Stade Vélodrome.
Avec la coupe,
si j'ai bien compris,
grandes oreilles.
Il y aura un match.
Il y aura un match ici. Il y a un match dont le but, c'est l'emploi.
Voilà, donc le même match, mais sans crampon. Donc comment ça va se passer concrètement? Et si quelqu'un veut venir à ce forum, comment il doit se préparer?
Alors, pour se préparer, il y a un ensemble d'acteurs sur le territoire qui organisent avec nous, qui co-organisent des informations collectives et puis on donne de l'information. Ce qui est sûr, c'est que les gens, ils ont la date, la population a la date, c'est le 9 juin, c'est de 9h à 17h en continu, il n'y a pas d'arrêt entre midi et 2, donc c'est en continu. Et les gens, ils viennent, ils se présentent, on les prend en charge à la descente de leur bus. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent sur l'esplanade, ils sont pris en charge sur l'esplanade, on leur donne toutes les informations qu'il faut dès l'esplanade, on leur donne un guide, ce qu'on appelle un guide emploi, avec tous les postes qui sont recensés avec toutes les entreprises, on les aide à se prépositionner. On aura des médiateurs RH qui seront avec des tablettes pour les aider à s'inscrire sur le logiciel. Et on aura à l'intérieur du stade plusieurs SAS, un parcours, où les candidats qui n'auront pas la possibilité de pouvoir s'enregistrer sur l'esplanade avec nos médiateurs RH, parce qu'on en aura une dizaine, mais si on a 1000 ou 2000 personnes, bah, l'idée c'est qu'ils passent aussi derrière. On a une vingtaine d'ordinateurs avec une vingtaine de collaborateurs qui vont enregistrer tous les candidats sur l'application. Il faut que tout le monde soit enregistré pour qu'on puisse les suivre et surtout pour qu'eux ils puissent avoir plusieurs opportunités durant l'année. Voilà. Et après, derrière, et bah, en fonction des positionnements sur les postes qu'ils ont identifiés, eh ben, on les fait passer devant les entreprises, les recruteurs, dans les loges pour passer à l'entretien d'embauche. L'entretien dure entre 7 et 10 minutes maximum en fonction des flux. Donc, c'est pas un entretien décisif, il faut séduire. L'enjeu, c'est séduire le recruteur et obtenir le sésame, c'est le deuxième rendez-vous qui se fait en entreprise. Et pour le coup, là, il sera un peu plus long et un peu plus structuré.
Est-ce qu'il est conseillé que les personnes, les demandeurs d'emploi ou les jeunes puissent venir avec un CV éventuellement, avec une lettre de motivation,
hein? Alors, ils peuvent venir avec un CV. On a tout prévu. Ça veut dire l'équité, c'est ça aussi. C'est-à-dire il y a des candidats qui auront des facilités à se préparer et ils ont des CV. Sur place, on aura des flyers CV vierges. On les aidera à remplir un flyer CV et tout le monde sera fourni pour qu'ils puissent tous avoir la même chance. Et tout le monde aura la possibilité de préparer, s'ils ne sont pas passés dans les ateliers de coaching qu'on a fait en amont. Le jour J, on a la chance d'avoir un gros partenaire qui est Pôle emploi, qui est ici présent, qui peut en parler mieux que moi, qui animera des espaces de coaching pour aider les candidats à se préparer. Voilà. Dans la préparation, il y a aussi un élément stratégique par rapport aux entreprises. C'est aussi leur expliquer les dispositifs qui existent et qui sont très facilitants pour l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise à Marseille qui recrute un candidat d'EQPV gagne de l'argent.
Tout à fait.
Il y a un dispositif qui est l'emploi franc qui permet au maximum à l'entreprise de déduire 8000 euros sur les charges du collaborateur qui recrute s'il répond aux critères. Et aujourd'hui, c'est très attractif. Moi-même, j'en ai bénéficié. J'ai recruté 4 personnes avec ce dispositif-là. Aujourd'hui, les entreprises, elles commencent à avoir l'information et ça va ouvrir vraiment les portes pour tout le monde.
Juste, oui, le jour J, Pôle emploi sera présent, donc on sera une dizaine de conseillers. Il nous a semblé important de préparer ces candidats. Donc, il y aura un atelier coaching, donc sur une 20 minutes à peu près. Donc, c'est vrai qu'à Pôle emploi, on a des conseillers, on a aussi des psychologues du travail qui sont là et qui préparent les candidats. Donc, un atelier coaching, un stand aussi orientation. Parce qu'on peut avoir des personnes qui ne savent pas exactement quel métier faire, etc. Et pour ça, on dispose de casques virtuels où on peut découvrir avec ces casques virtuels les différents métiers. Et voilà. Donc, on présentera ce stand d'orientation aussi. Et puis, comme l'a dit Abdel, un stand conseil sur les mesures et aide à l'emploi. Alors, on sera aussi conseil pour les entreprises présentes, mais aussi pour les demandeurs, les candidats. C'est important aussi qu'ils puissent s'exprimer sur ces mesures à l'emploi et inciter l'employeur à l'embauche.
Et quels sont les domaines où il y a le plus d'embauches, le plus de demandes, d'offres plutôt, d'emploi ?
Aujourd'hui, c'est beaucoup. On a beaucoup sur les services à la personne. Donc, du coup, on a une ou deux entreprises là-dessus. On a Samsic, on a O2 et la troisième m'échappe. Mais c'est beaucoup les services à la personne.
D'accord.
Compléter sur les intentions. Quand je parlais de métiers en tension, alors il y a les services bien sûr à la personne. D'abord l'hôtellerie-restauration redémarre en mois de mai. Là, on n'a pas encore fini totalement ce mois de mai, mais oui, les chiffres montent. On a fait dernièrement donc un job dating là au cloître. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que quand l'hôtellerie-restauration démarre, il y a pas mal de secteurs après, qui, notamment le tourisme. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. On a aussi un secteur, la sécurité. Bon, en plus, c'est l'expertise de l'agence de Carré-Gabriel. Mais là, il est vrai aussi que la crise ne nous a pas touchés en nombre d'offres d'emploi, loin de là. Le bâtiment n'a pas été non plus touché par la crise sanitaire. Voilà. Donc, il y a des secteurs qui n'ont pas du tout été touchés et où on manque cruellement de candidats.
Voilà. Farid ?
Moi, ma question, c'est que ça concerne... éventuellement des jeunes qui veulent créer leur propre entreprise, éventuellement. Quelles sont les aides pour ces jeunes-là, éventuellement, en termes de partenaires ce jour-là, si éventuellement ces jeunes-là veulent créer leur propre entreprise? Est-ce qu'il y a un suivi ensuite?
Il y a deux réponses à ça. Je laisserai Marielle parler pour Pôle emploi, parce qu'il y a des aides à Pôle emploi et de l'accompagnement. Sur la journée du 9, on aura l'association Sport dans la ville qui sera présente, qui a un dispositif qui s'appelle Entrepreneur dans la ville, qui accompagne les jeunes des quartiers à entreprendre. C'est peut-être le plus beau dispositif qui existe en France. Pour bien le connaître, pour l'avoir développé avec eux à Paris et à Lyon, on fait guère mieux en France. Voilà. Donc voilà. Et puis, il y a les dispositifs qu'il peut y avoir d'aide à la création que porte Pôle emploi. Mais je laisserai Marielle.
C'est vrai que les aides, on les connaît plus ou moins. Il y a l'Agile. Mm-hmm. Voilà, il y a la marmite, je crois, c'est ça.
Alors après, au-delà des différentes aides que je vais peut-être pas énumérer, parce qu'effectivement, l'important aussi, c'est d'avoir un projet construit quand on crée. Et pour ça, on peut avoir l'idée d'un projet, mais si derrière... Il n'y a pas d'éléments et que ce projet n'est pas bouclé avec les zones de risque, la faisabilité du projet, etc. Donc du coup, oui, on a des partenaires et des prestataires pour l'aide à la création d'entreprises. Donc nos conseillers seront là justement pour apporter toute leur expertise sur la création d'entreprises et on nommera parmi les conseillers un qui est plus spécifique, qui a cette expertise sur la création d'entreprises. Mais oui, disait.
Dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a des jeunes qui sont diplômés. Est-ce qu'il y aurait des entreprises susceptibles aussi de les recevoir et de pouvoir discuter et qu'ils puissent postuler aussi ?
Alors, complètement. J'avais dit tout à l'heure qu'il y avait 60 à 65% des postes qui étaient pour des candidats peu ou pas diplômés. Mais il y a 35% des postes qui sont pour des candidats qui sont entre Bac plus 2 et Bac plus 5. Donc il y aura, l'offre est assez large. Après, le conseil que je donne, mais vous ne dites pas que je vous l'ai donné, c'est que les candidats, quand ils viennent, il faut qu'ils tentent leur chance de partout. C'est une journée qui est pour eux. Donc il faut qu'ils osent et puis qu'ils viennent voir les entreprises et poser les questions qu'ils veulent.
Saïd ?
On va peut-être voir ça du côté du terrain, MOV, comment ça se passe la préparation pour, de votre côté?
Alors, pour le 9 juin, on a déjà fait, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a fait une info collective au centre social sur 2 jours. Alors, la mobilisation, elle se fait par mon équipe. On travaille en transversalité, comme je vous disais, avec la PJ, avec le directeur du centre social, avec le directeur du centre aéré, aussi avec la référente famille. Donc, on a mis en place 2 jours d'info collective où on a mobilisé des jeunes et des moins jeunes qui sont venus le jeudi et le vendredi sur des tranches horaires. Et là, on a prévu, parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, je fais des permanences à la maison des familles avec Farah de Nécessité, donc une collègue que je connais très bien, avec qui on travaille bien en partenariat. Et donc, la semaine prochaine, on a mis en place une journée en fait, de préparation d'entretien. C'est-à-dire qu'on va refaire venir les candidats qui ont postulé. Ils vont venir toute la journée et on va les entraîner à passer des entretiens, un peu à leur donner confiance en eux, à bien un peu redéfinir les objectifs et à voir vraiment vers quelle entreprise ils vont postuler. Et ça, ben voilà, c'est prévu pour la semaine prochaine. Donc nous, avec Farah, on a reçu quasiment 20 personnes sur 2 jours. Et la semaine prochaine, on va les remobiliser, c'est prévu. Ils vont venir toute la journée. Et après, le jour du 9 juin, donc il y a effectivement le problème de la mobilité, parce que selon moi, je pense que c'est quand même un problème, parce que pour beaucoup, comme on disait tout à l'heure, pour certains qui doivent faire des cassures pour aller travailler à 9h du soir, à 6h du matin, retourner en bus, pas revenir, vraiment Marseille, c'est une ville vraiment très très mal desservie, surtout dans les quartiers nord. Donc nous, on a un fourgon où on fait ça avec mon collègue de la PJ qui est l'animateur prévention jeunesse. On a un fourgon de 9 places, et ben on va les accompagner. Voilà. Alors je sais qu'il faut travailler l'autonomie, il faut travailler beaucoup de choses, mais sur ce jour-là, c'est un temps convivial aussi, c'est un temps qu'on a envie de partager avec eux, où on mangera avec eux le midi, et on va partir comme ça, avec le camion, et avoir avec des voitures, et on va les amener nous-mêmes. Voilà. Parce que c'est pour nous aussi un temps où on a besoin de partager, de convivialité, de faire comme quand on va à des forums emploi. C'est notre façon de faire. Après, travailler sur la mobilité et le permis, on connaît des dispositifs, mais malheureusement, souvent, il faut commencer des formations pour avoir droit à passer le permis. Enfin, vous savez comment ça se passe. Et malheureusement aussi à Marseille, il y a pas mal d'auto-écoles qui, malheureusement, font payer des permis à des jeunes et qui ferment au bout de 2-3 mois. Et après, ces jeunes-là n'ont plus l'argent pour se repayer un permis. Donc, il y a aussi toutes ces problématiques autour de ça. Voilà.
Et le profil des candidats?
Alors, le profil des candidats, là, c'est quand même généralement plus, on va dire, ça va de 17 ans, on va dire, pour des jeunes aussi qui cherchent beaucoup. Il y en a beaucoup qui cherchent des stages, qui sont en apprentissage. Là, c'est un ou deux jeunes. Et après, le profil, c'est entre 18 et 25 ans, à peu près. Ça peut être des personnes diplômées, non diplômées, en décrochage scolaire. Il y a vraiment un peu de tout. Voilà. Nous, le but, c'est de faire participer tout le monde. Je vous avoue qu'on a aussi pas mal de jeunes qui sont soit en formation BAFA, soit qui ont commencé un peu des formations un peu dans l'animation, BPJEPS ou autre. Et certains qui n'ont aucun diplôme et qui ont besoin de travailler immédiatement. Et voilà. C'est à peu près ça le profil pour l'instant des jeunes qu'on a reçus. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est pas fini. Donc on essaye de trouver aussi d'autres personnes et d'autres profils.
Merci. Nous arrivons presque au terme de notre interview avec vous. Donc déjà, merci. Et en guise de conclusion, le cabinet spécialisé en médiation emploi est-il inscrit dans des obligations de résultats ou des obligations de moyens? Ce n'est pas une question piège, mais c'est juste pour...
C'est une très bonne question. Globalement, sur l'ensemble de notre activité, on n'a aucune obligation. La seule obligation qu'on a, c'est la mienne, c'est-à-dire il faut qu'on gagne, et pour gagner, il faut qu'on mette un maximum de gens à l'emploi. Notre crédibilité, elle est là-dedans. Elle est là. Si on monte des opérations et que derrière, il n'y a pas de résultat, l'année N+2, elle ne fonctionnera pas. C'est-à-dire les gens ne viendront pas, les entreprises ne viendront pas. Donc si on dure depuis 20 ans, c'est que les résultats sont là. Après, aujourd'hui, c'est nouveau pour nous, c'est vraiment nouveau, parce qu'on apprend aussi à travailler avec des partenaires institutionnels, parce qu'on n'a pas trop l'habitude. On répond à des appels à projets nationaux, notamment ici en PACA, dans le cadre du PRIC. Donc on apprend aussi
en avançant. On a la chance de pouvoir apprendre avec l'agence de Carrie Gabriel et puis la DR de Pôle emploi PACA qui nous accompagne parce que c'est pas notre environnement classique et c'est pas notre c'est pas nos références. Donc aujourd'hui on apprend. Et on apprend bien parce que aujourd'hui en très peu de temps, on se considère comme le bras armé de Pôle emploi ou Pôle emploi hors les murs. Ah, donc du coup, on aime bien cette expression-là, et notamment la faire véhiculer dans les quartiers, parce que l'idée, c'est de démontrer que Pôle emploi va aussi dans ces quartiers-là. Alors, avec nous ou sans nous, peu importe, ils y vont. Voilà. Et on veut arrêter les clichés et faire tomber ces clichés-là, dire bah ils viennent pas, on les voit pas. On est la démonstration du contraire.
Oui. Ce que je voulais dire par rapport au sentiment peut-être d'injustice, d'iniquité, d'impuissance que peuvent ressentir les habitants des quartiers prioritaires de la ville et puis accentué par la crise, c'est d'abord de dire oui, si aujourd'hui Pôle emploi travaille de mieux en mieux avec un ensemble de partenaires dont nécessité, les meubles, on est aussi présent sur les permanences, les places de l'emploi et on va nous aussi hors des murs, mais avec des partenaires. C'est aussi pour que tous les jeunes et adultes qui n'ont pas envie ou qui ont peur de Pôle emploi, parce que oui, ça peut faire peur et l'image n'est pas toujours positive malgré le travail que je vois au quotidien de mes équipes. Et du coup, cette force du partenariat, en fait, c'est ça qui nous amène à la réussite. Voilà, c'est pas Pôle emploi seul. Mais oui, c'est Pôle emploi avec le MOV, nécessité, là, on est présent. Je pense à la médiation numérique que je vois en face de moi. C'est avec cet ensemble d'acteurs qu'on devient, qu'on est crédible et que les habitants prennent confiance en nous. Et du coup, ont envie d'utiliser les moyens que l'État peut allouer. Voilà. Donc la force, c'est le partenariat. Et c'est vraiment génial dans ce 14e arrondissement, je le disais à Abdel, depuis que j'y suis, c'est que vraiment, on se connaît, on est coordonnés, on travaille bien ensemble. Quoi. Voilà, ça c'est... Ouais.
Abdel souhaitait.
Ouais, pour ajouter sur les indicateurs de performance, nous, on a nos propres indicateurs de performance qu'on a mis en place, mais on a aussi des indicateurs d'évaluation avec l'État, notamment par rapport à l'argent public, puisque l'action est financée, est cofinancée à hauteur de 70% par le public et 30% par le privé. Donc on a des comptes à rendre à nos partenaires, ça c'est clair.
Une dernière question, c'est quelle réponse à notre questionnement de départ ? Je rappelle, ai-je la tête de l'emploi, mon épiderme, mon nom et prénom, mon lieu d'habitation, le Grand Saint-Barthélemy, un quartier prioritaire de la ville, doivent ou peuvent-ils déterminer ma destinée ?
Oui, et une belle destinée. C'est parce que je viens des quartiers de Saint-Barthélemy, c'est parce que je suis basané, que j'en veux deux fois plus que les autres, que je travaille deux fois plus que les autres et que je suis motivé deux fois plus que les autres. C'est ce que recherchent les entreprises.
Eh bien, merci pour cette forme de conclusion. Sauf si Virginie désirait rajouter quelque chose et répondre à la question ou questionnement ou autre chose, le mot de la fin. Puis après, ce sera Madame Castel.
D'accord. Écoutez, moi, pour le mot de la fin, je dirais qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué quand même pour les personnes qui habitent dans les QPV. Mais effectivement, je rejoins Abdel pour dire que il faut deux fois plus de motivation et on est là aussi pour les accompagner, leur donner confiance parce que des fois c'est pas facile. Comme on disait, l'accès aux droits, l'accès au logement, l'accès à beaucoup de choses fait que des fois on a autre chose à s'occuper que de l'emploi. Donc il faut beaucoup les accompagner, être là, être présent. Et moi je suis très positive, c'est pour ça que je fais ce métier. Et heureusement il y a aussi beaucoup de personnes qui réussissent, qui ont des beaux jobs et qui sont épanouis dans leur travail et on est là pour les accompagner et en espérant qu'après toute cette période de crise sanitaire, on arrive à remonter un peu la pente et que ce ne soit pas pire après. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation. Oui.
Alors, une information quand même juste, une dernière liée à l'actualité, parce que pour mieux accompagner, mieux donner envie, il faut être nombreux comme conseiller, ce qu'on n'a pas toujours été. Et là, du coup, il y a un nouveau projet d'intensifier l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans les QPV. Donc, je suis très, très contente parce qu'à l'agence de Carré Gabriel, on va avoir 16 conseillers de plus, avec le projet du gouvernement, qui a 66 agences au niveau national. Et 5 sur PACA, dont l'agence de Carré Gabriel. Et là, on va travailler différemment.
puisque effectivement nos conseillers, ils auront des plus petits portefeuilles de demandeurs d'emploi. On pourra travailler encore mieux en partenariat. On va créer des vrais partenariats avec les entreprises. Voilà. Donc c'est aussi cet accompagnement un peu au quotidien qui est nécessaire si on veut réussir et qu'on établisse une vraie relation de proximité entre le conseiller Pôle emploi et puis le candidat. Voilà. Donc ce projet, voilà, on est très heureux d'y participer. Et là, on est en plein démarrage. Et d'ici fin juin, on devrait avoir nos équipes au complet. Voilà. Un beau projet.
Donc pour le 9 juin, rendez-vous au stade Vélodrome, n'est-ce pas?
C'est important pour moi. Parce que je suis un acteur social. Et moi, ça me tient à cœur par rapport aux jeunes des quartiers, par rapport au suivi. Ça va être suivi sur combien de temps? C'est important pour ces jeunes-là. Même s'il y a un retour négatif, au moins, ça les rassurera.
Alors, on ne pourra pas suivre tout le monde. Ça, on ne peut pas le garantir. En tout cas, on va essayer de suivre un maximum de candidats. Tous ceux qui seront inscrits sur la plateforme numérique qu'on a mis en place, elle est faite pour le suivi. Voilà. Donc, du coup, l'objectif, c'est que tous les candidats qui viennent sur l'opération soient inscrits sur la plateforme. Donc, il y aura un minimum de suivi par rapport à ça pendant un an. Il leur sera proposé plusieurs opportunités d'emploi à travers la plateforme et à travers les trois boosters qu'on va organiser, les trois petits job dating qu'on va organiser après le stade Vélodrome dans les quartiers.
Voilà. Abdel, pouvez-vous rappeler le 9 juin le pourquoi du comment et s'il y a une possibilité d'avoir un numéro de téléphone pour avoir des informations complémentaires ou un contact, je ne sais pas, soit
oui,
par
alors,
mail ou autre.
Très simple.
Ou le Pôle emploi, hein, je ne sais pas. Si alors, pour
tout,
avoir des informations tout, complémentaires.
Tout ça, Pôle emploi, l'agence Carré-Gabriel, notre site internet, www.necessité.com, notre numéro de téléphone. On peut nous appeler au 04 37 45 18 30 et on peut nous faire un mail aussi à ness@necessite.com. Voilà, on donne rendez-vous à tout le monde le 9 juin, entrée libre, accès libre à tout le monde, voilà, QPV et hors QPV, donc tout le monde, et tout le monde sera très bien accueilli sur l'événement.
Bien sûr, pour le 9 juin, geste barrière de rigueur, vacciné ou pas?
Absolument. Absolument.
Voilà.
Absolument.
Donc sinon, est-ce qu'il y aura distribution, gel et autres?
Il y aura gel, voilà, et masque pour tout le monde, mais on demande au minimum à ce que les gens se présentent avec un masque. C'est ce que tout le monde devrait avoir. Mais on aura gel et masque pour tout le monde, il n'y a pas de problème.
Alors, merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation d'une part, et pour un message d'espoir avec notre reggaeman marseillais, Jo Corbeau, l'avenir. Donc c'est une note d'espoir aussi. Merci Sidi.
Fatal instant où mon esprit pourra se mélanger. est encore à venir. Ne vis pas qu'avec tes souvenirs. Le meilleur est encore à venir.
Bonjour, nous voilà en direct des Échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère au 88.4 et nous entamons la dernière partie qui correspond au communiqué. Donc en premier lieu, nous tenons à adresser nos sincères et vives félicitations à l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé qui a toujours répondu favorablement aux sollicitations du comité Méméga. En effet, en 2018, elle avait obtenu le prix académique de littérature prix Nobel alternatif, soulignant la dimension postcoloniale de son œuvre et en 2021, la fondation Simone et Cino Del Luca lui a décerné le prix mondial Cino Del Luca pour l'ensemble de son œuvre littéraire. Le prix mondial est destiné à récompenser et à faire mieux connaître un auteur français ou étranger dont l'œuvre constitue sous forme scientifique ou littéraire un message d'humanisme moderne. Honneur et respect pour l'équipe municipale et son maire Benoît Payan pour avoir voté le changement de nom de l'école Bugeaud dans le 3e arrondissement, rebaptisé au nom d'un tirailleur algérien, Ahmed Lichim, qui a donné sa vie lors de la libération de la Provence. Maintenant, passons à la vie de quartier. Donc, le groupe de veille Picombusrine organise samedi 29 mai une opération « Garde ton quartier propre », tous pour la propreté dans notre quartier. Donc, le rendez-vous est fixé à 8h30 à la crèche de l'œuf, située en face de la maison du quartier du stade Amada Jambé, au 57 avenue Maboubitir, dans le 14e arrondissement. L'association 7 Santé et Environnement pour tous, dont notre ami Yazid Atala nous avait parlé lors de l'émission du mois dernier, organise avec des partenaires de terrain dans le comité Méméga des rencontres de prévention et effectue des dépistages Covid-19, voire des vaccinations sur site ou à domicile. Pour toute info, vous pouvez les contacter au 07 49 80 95 60 ou par mail en écrivant à contact@7-6asso.com. L'association 7 reçoit des dons de masques, gel hydroalcoolique, savon. L'association Système D de Fonds Verts travaille sur la mémoire de Fonds Verts, a proposé au comité de s'associer au projet de film documentaire sur la mémoire du quartier, en partenariat avec le collectif Vost, qui est à la réalisation. Le tournage a démarré lundi 24 mai. Et maintenant, hop là, on va vous parler un petit peu des activités proposées aux habitants par les équipements de proximité qui ont repris. Donc vous pouvez vous mettre en lien avec le Centre Social Agora au 04 91 02 37 31, le Centre Social Flamand Iris et LMFA au 04 91 21 83 78. Et je cède maintenant la parole à Leïla pour vous parler des activités qui se déroulent sur le Fab Lab des Flamands.
Merci pour l'invitation. Donc voilà, je me présente Leïla de l'association Avec Nous. Donc il y a deux fabriques numériques dans les quartiers nord principalement. Un au Flamand et un au Clos. Donc on a une fabrique infablable et une médiation numérique. Donc la médiation numérique va permettre d'accompagner les habitants à l'utilisation de tout ce qui est outils numériques, à la numérisation maintenant de tout ce qui est dématérialisé, etc. On les accompagne à utiliser les plateformes telles que la CAF, Sécurité sociale, Pôle emploi. Il y a divers ateliers aussi, des ateliers qui vont permettre d'apprendre à utiliser les ordinateurs. C'est bien beau de numériser, mais il faut savoir utiliser les outils. Donc on met à disposition des ordinateurs pour les habitants et des formations totalement gratuites. Ensuite, on a le côté fabrique numérique où aussi, là, on accompagne les habitants à l'utilisation de machines telles que découpe laser, imprimante 3D. Et on accompagne, on fait de l'insertion en accompagnant les 16-25 ans, voire plus, selon les cas, sur des formations de 3 mois où on les forme au métier du numérique. Donc pendant 3 mois, ils ont un accompagnement avec un Fab Manager et un assistant Fab Manager sur l'utilisation des machines et comment les utiliser. Et on a une conseillère insertion professionnelle qui les suit pendant la formation et après la formation. Donc à l'issue de cette formation, c'est qu'ils puissent trouver dans le meilleur des mondes un travail. Du moins, on fait tout pour et on fait beaucoup de partenariats dans ce sens pour pouvoir les orienter et les diriger. Donc on va accompagner des mineurs qui ont une fracture totale avec l'école et qui ne savent plus quoi faire de leur vie. Donc on essaie, au-delà de les accompagner dans l'apprentissage, de les accompagner dans leur vie. Donc voilà.
Merci beaucoup Leïla. Donc je vais continuer.
Alors pour on a une session qui débute au mois de juin. Je vais donner on a un site internet qui s'appelle Avec nous. On est présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à suivre l'actualité. Et ensuite, alors pour le numéro, je ne le connais pas par cœur. Il y a le site internet. Oh, pardon ? Mais grâce au progrès, effectivement. Alors, comme je ne le connais pas par cœur et je suis désolée, j'en profite aussi. Étant donné que, pour faire un peu la transition, tu parlais de...
J'allais enchaîner sur le Théâtre du Merlin.
Théâtre du Merlin, mais ouais. Juste avant, tu parlais justement du projet Fond Vert sur le film des mémoires.
Travail de mémoire, oui.
On a un projet aussi qui va avoir lieu, un événement qui va avoir lieu le 26 juin, au Flamand, justement. Ça va être un événement festif autour de la mémoire des Flamands. Donc c'est ouvert, il y aura des activités pour enfants et adultes, donc n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, je vous invite de manière officielle à venir. Donc le numéro de téléphone... C'est le 09 50 69 44 12. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup pour l'accueil.
Donc, je vais essayer de terminer rapidement, puisqu'on est censé finir à 15h. Donc le Théâtre du Merlin reprend sa programmation et il est prêt à vous accueillir, portes et bras ouverts, bar et restauration fermés, mais vous pouvez toujours pique-niquer à l'extérieur. Ensuite, la bibliothèque du Merlan a recommencé à fonctionner normalement. Vous pouvez les contacter au 04 91 12 93 60. Et nous vous rappelons l'ouverture de la maison de justice et du droit au 46 boulevard Capitaine Guèze dans le 14e. Et pour toute information, ils sont joignables au 04 84 52 08 81. Les émissions des échos du Grand Saint-Barthélemy est soutenue par la politique de la ville, État, métropole et le département. Et nous les remercions.
Musique et
bye-bye.
Dernier morceau, c'est pour lui chez Did, Tenir ta main. C'est en mémoire de toutes ces personnes qui sont décédées du fait du Covid-19. Lui chez Did.
Elle voulait voir son père, mais l'autorité lui a dit pas question, défense d'entrée. Ça fait des jours qu'il la réclame. À corps et à cri, coup de fil de l'hôpital, il est parti. Même pas le droit de leur tenir la main avant qu'ils s'en aillent. Quelques mots pour leur faire du bien, comme si c'était mal. Même pas le droit à un dernier regard. Leur dire au revoir, leur tenir la main. Leur tenir la main. Dans vos officines politiques, bureaucrates, y inventez des lois assassines, imposez vos dictates. Si un jour vous tombez au champ de bataille, est-ce que vous apprécierez ce silence abyssal? Même pas le droit de leur tenir la main avant qu'ils s'en aillent. quelques mots pour leur faire du bien. Comme si c'était même pas le droit, un dernier regard, leur dire au revoir.